Et vous écoutez France Culture. Je peux embaucher une moitié de la classe ouvrière américaine pour tuer l'autre moitié. James Gould. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Polar, histoire du récit noir et policier américain ce soir à Mauvais Genre, qui reçoit l'historien Benoît Tadier, auteur déjà en 2006 du remarquable Le Polar américain, la modernité et le mal. Il vient de publier au PUF Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours, retour de Ahmet Ailroy sur plus d'un siècle de récits criminels, contexte, auteur, thème et figure. Chronique également en second temps d'émission du mythique Détour de Martin Goldsmith paru chez Rivage et Dans les angles morts d'Elisabeth Brundage, une parution Table Ronde. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mauvais Genre placé ce soir sous l'invocation du polar et avec un invité que l'on n'avait pas revu depuis 2006 et que l'on attendait impatiemment de revoir puisqu'on savait, qu'il nous préparait un grand livre et ce grand livre est là. Bonsoir Benoît Tadier.
Bonsoir François, merci beaucoup.
Heureux de vous revoir, le mot est faible parce qu'effectivement, il y a que ça 11 ans, on évoquait une suite à votre livre très étonnant sur donc le polar américain, la modernité mal sur la manière dont justement les auteurs de polar américains n'étaient pas des feuilletonistes qui pissaient copies, mais des auteurs plus proches peut-être de la modernité littéraire, d'Ezra Pound que d'autres choses. Et donc on attendait une suite à ce travail, et cette suite est là. Donc c'est ce Front criminel qui est la première, je pèse mes mots, la première histoire historienne, méthodique et scientifique, on peut le dire, du polar américain paru en France. C'est donc un événement, et merci à la fois d'être à l'origine de cet événement et d'être avec nous ce soir. Vous allez être soumis aux question redoutable d'Hubert Prolongeau qui est là.
Redoutable, le mot est faible, vous allez voir.
Le redoutable Hubert Prolongeau est là, vous allez voir ça, effectivement. Vous nous parlerez également, Hubert, de Détour, parce que là aussi, il y a deuxième événement polar en ce mois de janvier 2018. On connaissait depuis des années, en tout cas les amateurs de films noirs américains connaissaient le film génial de Edgar C. Hoover. Et là maintenant, voilà le roman.
Tout à fait, qui n'est pas en dessous du film, vous verrez.
Voilà, on va voir ça avec vous. Également Élise Lépine.
Bonsoir.
Comment va-t-elle?
Elle va très bien. Pas de questions redoutables, moi je suis good cop. Hubert, c'est bad cop.
Voilà, donc... Voilà.
Non, je plaisante. On est tous les deux des good cops.
Voilà, et tous les deux des bad cop un peu quand même, parce que sans bad cop, pas de bonne émission de radio. Voilà, ben merci donc Benoît Tadier, puis donc merci. On va avec vous traverser, après, ça fait presque un siècle, 1919 à nos jours, c'est quand même presque un siècle de polar qu'on va...
Absolument, en fait un bel anniversaire, voilà. C'est vrai, même s'il est difficile de dater précisément les débuts du polar, bien sûr.
Merci à vous, et maintenant... Le moment solennel, l'ouverture à la lettre Z. Voilà, j'ai anticipé l'événement avec vous, Céline Duchesnay, de notre encyclopédie pratique des mauvais genres.
Pour une fois qu'on a une lettre Z, on va pas s'en priver. Et alors cette fois-ci, donc celui qui représente la lettre Z, c'est Printemps von Sylve.
A new body.
Les chansons que je chante sont généralement très inspirées de moments importants et intimes de ma vie que je vais sublimer à travers la chanson. Donc il est très rare que j'ai des chansons qui soient complètement fictionnelles. Généralement ça vient d'étapes un peu magnifiques ou chaotiques de ma vie. Et généralement j'ai des actions qui vont sur scène, toujours en musique, mais qui parlent de dépassement de soi. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'être pendu par les pieds, il m'arrive d'enculer des flics à la matraque. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment un espèce de lien entre violence et amour, c'est-à-dire que je vais avoir des actes qui sont généralement subversifs, mais que je vais complètement enrober, que je vais subvertir véritablement sous forme amoureuse. Quoi. Il se trouve que donc je suis aussi catholique pratiquant, et donc je vais sur scène très souvent relier l'amour physique avec la prière. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie, c'est de dire que baiser c'est prier, et communier avec le public c'est prier aussi, même si le public n'est pas catholique ou il est d'une autre religion ou athée, etc. En tout cas moi j'estime que je le fais pour Dieu.
Have you ever been celeb? Des épines.
printemps parce que son ami Apollonia trouve qu'il danse comme un faune, parfaite incarnation d'un Nijinsky des mondes souterrains. Un nom, Von Zilve, qui redistribue les lettres de son patronyme tout en gardant la référence à ses racines allemandes, hommage rendu à sa mère. De quoi distinguer le performeur du réalisateur, car la première fois que j'ai rencontré cet être intense, il s'était présenté sous son nom, Jérôme Clément Vils. C'est le réalisateur du film « Être cheval », documentaire de 2016 sur Karen Chessman, homme, femme, cheval, tant aimé des mauvais genres. Mais Jérôme est aussi printemps. En parallèle à son travail de documentariste, il compose musique et chansons où transparaissent ses expériences au bois de Boulogne, en hôpital psychiatrique ou à l'église. Pas d'idée de rédemption ici, pas de contrition ni de damnation, sa musique vise l'holistique, la communion des âmes et la transcendance, pas moins. Quand il chante en public, printemps se fait prêtre. Concert, semblable à une cérémonie, peut commencer.
J'ai vraiment cette idée de trigger, qui est d'ailleurs un mot qu'on utilise pas mal dans le vocabulaire BDSM. Qu'est-ce qui va être le déclencheur? Qu'est-ce qui va faire qu'on rentre dans cet état de transe avant de monter sur scène? Et moi, je sais que le mien, mon trigger, va être le fait d'étaler absolument toutes les fringues que j'ai amenées, tous les costumes que j'ai amenés à l'arrière de la scène de manière complètement anarchiste, de me mettre nu et là de choisir l'identité que je vais adopter sur scène. Et ce choix va être complètement instinctif, en écoutant déjà le concert qui a déjà commencé, en entendant les rumeurs du public, quelle chanson il y a eu avant moi, etc. Et donc là, tout à coup, je dis « Ah oui, c'est ça que je dois prendre, c'est ça que je dois prendre ». Je tiens au fait que ce n'est pas des déguisements, ce sont des costumes, et qui ont le plus possible des accès à l'universel. En ce moment, j'adore porter des robes de mariée, donc notamment la robe de mariée de ma mère. Il y a une espèce d'aura universelle dont tout le monde peut s'attacher à une robe de mariée. La robe de mariée, c'est normalement, elle signifie que ce moment-là est précieux, il est spécial. C'est le jour d'une vie, en fait, quoi. Et quand les gens voient en plus un homme arriver en robe de mariée sur scène, ils comprennent qu'a priori, il y a quelque chose d'important qui est en train de se tramer, quoi. Et donc ce choix-là, encore une fois, il est très instinctif. Il est vraiment de l'ordre, et encore une fois, de la communion. C'est-à-dire qu'on entend des bruissements, on entend de la musique qui a déjà commencé, et on se dit, ok, là, il y a une identité. Quel est le saint qui va monter sur scène, ou la sainte qui va monter sur scène? C'est comme un espèce de panthéon.
Pourquoi m'as-tu choisi?
On écoute Vendredi Saint, un titre de Printemps von Zilve. Et pour en savoir plus, deux sites internet qui vous permettront de découvrir les autres facettes du personnage, car l'homme est multiple, vous l'aurez compris. Donc c'est www.jeromecw.com et www.epectase.org. Sinon, Printemps von Zilve sera bientôt en concert sous le nom de Printemps 303 Miracle, à retrouver le 20 janvier à Paris au dépôt, rue des Ours, à partir de 23h. Nom de la soirée, la toilette, la bonne éducation, où rôdera l'ombre du marquis de Sade.
L'OTAN. Le long fleuve.
Merci Céline pour cette entrée Z de Printemps von Zilve de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Benoît Tadier, je prends des personnages, on en rencontre comme ça dans l'univers que vous avez sillonné pour écrire Front criminel, un polar américain, un personnage singulier.
Tout à fait, oui, mais s'il y a bien un univers où on rencontre de la transformation sociale avant tout, puisque par essence les criminels sont des gens qui prétendent être ce qu'ils sont, autre chose que ce qu'ils sont en réalité, c'est bien ce genre-là, oui. Donc c'est même un des grands thèmes d'ailleurs de tout le polar, notamment chez Chandler, où les gens ne sont jamais vraiment ce qu'ils semblent être au premier abord, et souvent de fausses identités masquent ce qu'ils sont réellement.
Merci donc Céline pour cette nouvelle entrée de notre encyclopédie pratique du mauvais genre. Et puis je rappelle que le livre est toujours disponible aux éditions Nada. Ce soir, Mauvais Genre reçoit Benoît Tadier pour un livre important, Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours, au PUF. We'll be right back. Il avait les yeux qu'ils ont toujours, troubles et gris, comme de l'eau qui gèle. La mâchoire serrée, les petites rides dures au coin des yeux. Le regard dur, creux, vide de sens, pas vraiment cruel, mais à mille lieues d'être aimable. Comment aurait-il pu en être autrement ? La civilisation n'avait pas de sens pour eux. Tout ce qu'ils envoyaient, c'était les échecs, la crasse, la lie, les aberrations et le dégoût. Voilà un extrait, donc une citation d'un texte que vous avez vous-même traduit, Benoît Tallier, parce que une des caractéristiques de ce livre, c'est que vous, en tant qu'américaniste et angliciste, vous avez vous-même traduit les extraits. On viendra tout à la fin de l'émission sur justement la nécessité d'avoir des traductions au niveau des textes. C'est un texte de qui là ?
De Raymond Chandler.
Voilà. Et qui définit qui exactement ?
Les policiers de Los Angeles.
Ouais. Voilà.
On peut imaginer qu'effectivement, ils en ont vu beaucoup des choses et que du coup. Ils ne sont plus vraiment des enfants de cœur.
Alors cet ouvrage, Front criminel, Benoît Tallier, c'est donc une histoire méthodique, chronologique et extrêmement problématique du polar américain, au sens où vous avez essayé vraiment d'en donner une vision, une analyse, je dirais conceptuelle, mais qui n'est pas systématique, au sens où vous n'offrez pas une grille, une sorte de gaufrier qui permet de rendre compte de tout. Mais il y a véritablement une volonté de définir au plus juste ce qu'est la physionomie à la fois historique et individuelle de tous les qui ont fait le polar. Et au départ, il y a une sorte de ce qu'on pourrait appeler une matrice théorique, une sorte de modèle un petit peu, puisque vous situez le polar américain au confluent de deux champs de force. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est cette phrase de Jay Gould. Alors, Jay Gould, c'était le tycoon, voilà, c'est le baron de l'acier, je crois. Oui, les Gould, ça. C'était l'acier. Je peux embaucher une moitié de la classe ouvrière américaine pour tuer l'autre moitié. Ça, c'est la capacité, effectivement, la violence intrinsèque à cette société. Et l'autre, c'est d'Alexis Tocqueville, notre Alexis national. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les principaux caractéristiques. Il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. La citation est plus longue. Donc, il y a deux citations qui montrent que d'un côté, il y a un désir de liberté, de reconnaissance, d'égalité démocratique et qui est contrebattu par l'épouvantable pesanteur historique et l'épaisseur du réel, on peut le dire.
C'est ça, je pense effectivement, on oublie un peu justement l'aspect Tocqueville, c'est-à-dire cette poussée démocratique qu'il a très bien décrite déjà donc dans la première moitié du 19e siècle aux États-Unis, l'affirmation donc non seulement d'un système politique mais aussi d'une culture démocratique où les gens qui n'ont pas forcément de qualifications de très haut niveau peuvent avoir accès à la parole et jouer un rôle dans la culture et les arts. Je pense que ça c'est très important si vous voulez pour expliquer la dynamique historique du polar et l'apparition de très nombreux auteurs notamment dans des systèmes de production assez ouverts comme pouvaient l'être les magazines des années 20 et 30, et puis ensuite les livres de poche des années 50, qui étaient beaucoup moins cloisonnés que ce qu'on peut même connaître aujourd'hui de ce point de vue-là, et qui ont permis donc à beaucoup de gens qui n'avaient pas de qualification particulière ni d'éducation universitaire, mais qui avaient en revanche une expérience de la vie assez remarquable, de raconter un petit peu leur vie à travers le prisme du roman noir. Donc ça, c'est à mon avis...
Le côté tocquevillien.
Voilà, le côté tocquevillien, whitmanien, si on veut, puisque je me réfère aussi à Walt Whitman, le grand poète de la démocratie américaine, qui disait justement qu'il fallait inventer une littérature qui reconnaisse le peuple et qui soit produite et mette en scène le peuple. Ce qui, disait-il, n'était pas vraiment encore le cas à l'époque où il écrivait lui-même vers 1860-70. Et je pense que le polar est finalement une des réalisations de cette prédiction de Whitman et de Tocqueville dans un champ qui est effectivement pas très coté sur le plan universitaire par exemple, qui est celui de la littérature populaire, mais qui a donné du coup de très 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 belles œuvres, hein, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que je cite beaucoup et que j'ai voulu retraduire, c'est que je pense qu'il faut traiter ses œuvres et ses textes avec le respect qu'ils méritent et que souvent on a des écrivains tout à fait intéressants. Ce ne sont pas que des archétypes.
Votre livre s'appuie sur plusieurs dizaines de textes et d'auteurs dont un grand nombre ne sont pas traduits. Donc d'où un second intérêt à cet ouvrage. Alors bon, il y a l'aspect tocquevillien, puis en face, il y a le Robert Barron, il y a l'effroyable capitaliste assassin.
Alors ça, on connaît mieux, évidemment, puisque c'est un peu la tarte à la crème du roman noir.
On connaît même très bien aujourd'hui.
Ce n'est pas d'ailleurs que ça, le roman noir, mais c'est en grande partie ça, et notamment à ses débuts, puisque le premier vraiment très grand roman noir que l'on connaisse, qui est La Moisson Rouge d'Achille Hamet, justement, démarre sous les auspices d'un de ces barons voleurs capitalistes pourris qui s'allient à des gangsters pour briser les élans de la classe ouvrière, et c'est là que le crime s'installe dans la ville. Donc on peut dire que c'est un peu le point de départ de mon histoire aussi. Et ça, c'est un roman de 1927 que tout le monde, enfin tous les gens qui connaissent le polar connaissent bien. Donc effectivement, il y a cette figure là et qui ensuite, se diversifie, se complexifie. Ce n'est pas forcément l'horrible vieillard capitaliste. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mais il y a tout de même l'idée que la poussée démocratique est entravée par des forces autrement plus puissantes qui parfois empêchent justement à l'individu de s'affirmer ou de se réaliser. Et ça, je pense que c'est aussi une des grandes figures du roman.
Et au carrefour donc de ces deux champs de force naît le polar américain. Hubert Prolongeau.
Il y a deux figures archétypales aussi qui sortent un peu de ce duel capitalisme-ouvrier, qui sont le flic et le voyou. Comment ils se répartissent dans le polar américain? Est-ce qu'ils incarnent l'un l'élan sécuritaire que, je sais pas, quand Eastwood, par exemple, incarne beaucoup au cinéma, et l'autre, ce qu'incarne Scarface? Est-ce qu'il y a un mélange ou est-ce que c'est très figé?
Je pense que ça dépend un peu des époques et à mon avis, il n'y a pas justement peut-être d'archétype au sens où il y aurait d'un côté un bon et de l'autre un méchant. On voit apparaître très vite justement chez Hamet des flics qui sont totalement pourris, qui sont à la solde du système et qui sont même criminels, hein, puisque pour reprendre toujours l'exemple de La Moisson Rouge, le shérif du comté où se situe La Moisson Rouge est une crapule absolue qui essaye d'assassiner 3 fois le détective dans les 10 premières pages du roman, ce qui donne déjà une idée de son intégrité morale. Ensuite, je pense qu'au départ, effectivement, la personne, disons, qui incarne la vertu, c'est quand même le détective privé qui, justement, est à l'écart du système, le flic faisant partie de l'administration est plutôt connoté comme un personnage, disons, corrompu et pas forcément positif. En revanche, le voyou, là encore, il faudrait peut-être distinguer si les premiers gangsters sont des figures un peu stéréotypiques parfois, des Hamet et surtout Burnett, le criminel peut être justement une sorte de porte-parole du peuple qui ne trouve que dans le crime la voie du succès, disons. Donc il y a une certaine sympathie qui s'exprime pour le gangster, car c'est un fils de migrant pauvre qui réussit après tout, qui ne fait que suivre la bonne leçon du succès américain à sa manière. Donc il y a là, je pense aussi, une sympathie qui ensuite peut évoluer de différentes manières. Hein. Dans certains romans, c'est le flic qui peut être lui-même le criminel. Hein. Un des premiers grands romans de ce point de vue-là, c'est celui de Wolfson, À nos amours, ou Bodies are dust, corps de poussière, on dirait en anglais plutôt, un roman de 1931 dont le narrateur est un flic totalement pourri qui sous ses aspects moraux efface plusieurs de ses adversaires ou concurrents. Donc ce n'est vraiment, je pense, que dans les années 50 que la police prend sa dimension plus morale et aussi plus historiquement plus juste, qui est avec l'effacement des personnages de détectives auxquels on ne croit plus trop à cette époque. On peut dire que le poids de l'enquête commence à reposer de plus en plus sur la police, notamment dans les grandes séries d'Ed McBain par exemple, où là on les traite comme des êtres humains faillibles mais néanmoins des personnages positifs qui effectivement ont affaire à toutes sortes de formes criminelles. Donc je crois justement c'est un des exemples assez intéressants qui montre que suivant les contextes historiques, géographiques ou sociaux, les aspects moraux peuvent être totalement différents dans un cas plutôt qu'un autre, disons.
Et Yves Lépine.
Est-ce qu'il y a une unité chez ces auteurs de polar américains, une unité en termes d'idéaux politiques? Par exemple, vous écrivez qu'ils ont tous été antifascistes, notamment au moment du hard-boiled.
Oui.
Dans les années 20-30.
Dans les années 20-30. Est-ce qu'ils se reconnaissent tous dans une même conception de l'idéal politique?
Alors, ça dépend comment on l'entend. Je pense que si on parle de politique au sens parti, etc., pas du tout. Il y a une énorme diversité. Il y a des gens qu'on peut qualifier même d'assez réactionnaires, comme Mickey Spillane ou autres. Il y a eu des communistes comme Hamet, mais qui est devenu communiste d'ailleurs après avoir écrit l'essentiel de ses œuvres. En revanche, je pense qu'effectivement, l'idée d'un polar antifasciste, d'ailleurs, elle se retrouve chez Manchette, qui disait que le polar américain était essentiellement antifasciste. Je pense que même s'il disait que c'était assez incongru, c'était comme ça. Je crois que c'est effectivement assez vrai. Il y a eu une mobilisation, disons, assez forte aux États-Unis, qui dépasse largement le champ des auteurs de polar, qui est un peu l'équivalent du Front populaire en France, et qui d'ailleurs s'appelait aussi le Front populaire aux États-Unis, et qui a donc, on peut dire, mobilisé toutes les forces progressistes littéraires, culturelles, même du cinéma, à cette époque, dans les années 30, contre notamment au moment de la guerre d'Espagne, contre l'ennemi fasciste, et également contre un fascisme domestique qui existait également. Donc, de ce côté-là, on peut voir effectivement que l'engagement a été, alors j'exagère peut-être un peu, mais parfois je grossis le trait pour donner plus une image, et surtout pour déconstruire l'image d'un polar fascisant, qui était celle que dénonçaient les adversaires, comme George Orwell, par exemple, à propos de James Hadley Chase. Donc, je pense qu'il y a un progressisme, disons, démocratique, hein, comme je vous disais, mais qui ne va jamais jusqu'à affirmer un credo politique spécifique. Le polar, c'est avant tout une littérature d'opposition et de dénonciation, et non pas, ne cherche pas à faire l'article pour tel ou tel parti, ou quoi que ce soit, au contraire.
Alors, on va maintenant, effectivement, s'interroger, non pas sur ce que nous dit le polar, mais surtout sur tout ce qu'on lui permet, la manière dont tu lui permets de dire tout cela. Benoît Tadier est l'invité ce soir de Mauvais Genre sur France Culture pour Front Criminel, donc une histoire du polar américain sur plus d'un siècle, puisque tout a commencé en 1919. Et effectivement, vous distinguez trois phases qui sont à chaque fois trois guerres. La Première Guerre mondiale qui génère une littérature et un comportement littéraire, des prises de parti idéologiques et politiques bien spécifiques de la part des auteurs. La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore autre chose. Et celle du Vietnam, c'est encore une troisième position. Donc, c'est trois époques du polar à l'ombre de trois guerres d'ampleur différente, puisque la dernière est une guerre nationale, les deux autres sont des guerres mondiales. Et puis surtout, un classement en deux temps. En ce qui concerne les supports, il y a l'âge des pulps, en 1953, c'est très précisément noté, et après l'âge des paperbacks. Alors, on peut présenter ce que sont ces supports, qu'on les connaît quand même bien quand on est un amateur de mauvais genre, en tout cas les pulps, et puis dire en quoi ils ont joué sur le contenu, l'édition et l'écriture des auteurs. Benoît Tadier.
Oui, en effet. Alors, c'est d'abord une coïncidence historique que ces deux supports qui se succèdent correspondent effectivement à peu près aussi à deux grandes guerres, qui sont les deux guerres mondiales. Mais j'ai essayé de jouer justement sur ces périodisations à la fois politiques et culturelles. Sur le plan culturel, donc, le système de production évolue et du coup, ça a eu un impact assez important sur la forme des récits et des romans qui pouvaient être publiés. Disons que de 1900 à 1950, le grand domaine la grande structure éditoriale de la littérature populaire et donc aussi du polar, c'est les magazines pulp, qui étaient des magazines produits sur du papier de mauvaise qualité, des magazines vendus assez bon marché, en général 15 ou 20 cents le numéro. Il faut savoir qu'un livre relié à l'époque, et l'essentiel des romans étaient reliés, se vendait 2,50 $, donc ça faisait très cher.
Mais vous dites même que c'était une semaine de travail d'un ouvrier.
Voilà,
qu'on ne s'étonne pas qu'il lise peu.
Alors un ouvrier pouvait être payé 10 $ par semaine, donc vous voyez, c'est déjà assez commensurable. Avec 4 livres, vous arrivez au salaire hebdomadaire d'un ouvrier. En revanche, avec les magazines, ils pouvaient effectivement s'offrir une lecture, ce dont ils ne se privaient pas, du reste, puisqu'on évalue à 10 à 20 millions le nombre de pulp qui est élu chaque semaine ou chaque mois, suivant les cas, par donc essentiellement le prolétariat américain. Mais outre le fait qu'ils étaient lus par eux, pour que bien sûr ces magazines reflètent aussi leur valeur, les histoires se rapprochaient de leurs conditions seconde vie. Et puis, vu qu'il fallait alimenter un très grand marché, beaucoup d'auteurs donc étaient eux-mêmes issus de ces rangs. Donc, j'entends par là des rangs de la classe populaire, ouvrière ou autre. Et du coup, ça permettait vraiment la création d'une scène qui permettait à des auteurs issus du rang, si l'on veut, de passer au statut d'écrivain et de vivre même de leur production, puisqu'ils étaient payés de manière quantitative au mot, en général un cens ou deux, quand ils étaient plus connus, par mot. Et il fallait donc produire beaucoup, puisque en fonction du nombre, de la longueur des histoires et du nombre d'histoires qu'on pouvait vendre, on gagnait plus ou moins d'argent. Donc c'était un marché de masse, mais qui a permis l'émergence de beaucoup de choses intéressantes et qui a vraiment fonctionné de manière très dynamique.
Qui diffusait une idéologie plutôt critique, qui n'était pas une idéologie.
Pas forcément. Il y a énormément de choses, hein, mais qui permettaient, qui n'interdisaient pas de le faire quand certains auteurs étaient suffisamment malins, disons, pour en plus des conventions génériques mettre un peu de leurs propres idées, ce qui est le cas de Hamed, par exemple, ce qui est le cas de Chandler.
Ouais, exactement.
Et ils disaient eux-mêmes qu'ils avaient souvent finalement beaucoup moins de contraintes en écrivant là-dedans qu'en écrivant dans des magazines plus chics, style le Saturday Evening Post ou autre, qui eux étaient vraiment surveillés de très près par le rédacteur en chef et dont les valeurs étaient beaucoup plus conservatrices. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont des produits de série dans ces magazines. Il ne faut pas dire que tout est forcément génial là-dedans, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ont pu s'affirmer là, et puis ça va aussi dans d'autres champs, le fantastique, pensez à Lovecraft, par exemple, la science-fiction, c'est aussi de là que sort Philip K. Dick ou autre, enfin de véritables génies littéraires sont sortis de ce champ. Après, ce qui se passe dans les années 40, c'est que certains éditeurs malins ont décidé de faire des paperbacks, donc des livres de poche, avant qu'on arrive en France. Ça démarre en 1939 aux États-Unis et qui se vendent à peu près le même prix, 25 cents. Et du coup, ça ouvre effectivement tout le champ littéraire.
Alors, paperbacks, la différence quand même à la fois dans l'objet lui-même et puis dans ce qui est proposé.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, ce sont des romans, ce ne sont plus des magazines qui, par définition, publient des nouvelles ou des histoires en série. Et puis, ça permet la réédition de tous les classiques littéraires qui, autrefois, étaient uniquement en édition reliée. Et troisièmement, ce qui se passe assez vite, c'est que, vu la réception très favorable du marché, les éditeurs les plus malins décident de faire paraître directement des romans en livres de poche, alors qu'au départ, c'était plutôt des rééditions de livres déjà parus en dur, si vous voulez. Et du coup, ça offre un nouveau marché très intéressant aux auteurs pulp qui se réfugient ou qui passent, disons, souvent à ce moment-là, ceux qui arrivent de la nouvelle au roman. C'est le cas de David Goodis, par exemple, qui était un auteur pulp dans les années 30 et 40 et qui devient un auteur de paperbacks dans les années 50. C'est le cas de Frederick Brown, c'est le cas de...
Et est-ce qu'il change de thème et de personnage en passant l'un à l'autre?
Je pense que oui, parce que il y avait quand même un côté assez prescripteur dans les magazines. Ils étaient rangés par catégorie. Il y avait des histoires de détectives du FBI, il y avait des histoires de d'aviation, il y avait des magazines comme ça qui étaient classés de manière plus codifiée, disons, ou plus stricte sur le plan générique, alors que le paperback vraiment s'ouvre de manière très large à des histoires assez hybrides. Et on voit que chez Goodis, il y a un peu d'aviation, un peu de crime, enfin justement Cassidy's Girl ou autre, c'est des romans où ils mélangent pas mal de thèmes. Le thème criminel, d'ailleurs, devient parfois un peu dissous dans le roman social ou inversement, ou dans des histoires de marginalité sociale, disons, qui permettent aussi probablement l'affirmation d'une ambition littéraire plus forte et de choses plus bizarres que ce qu'on pouvait voir dans les pubs. Si on pense au roman de Jim Thompson paru dans les années 50 dans les paperbacks, je pense pas qu'ils auraient pu paraître dans cet état-là dans des magazines pulp. C'est vraiment des choses tellement bizarres qu'on n'imagine pas qu'ils aient pu paraître...
Hubert Prolongeau. Nous qui ne sommes pas américanistes en France, on a subi et on subit encore, puisque Folio les reprend souvent sans les retravailler, les traductions tronquées et fantaisistes de la série noire. Il y a beaucoup de livres dont vous parlez dans votre recueil qui sont inédits. Est-ce qu'on a une vision, nous, juste de ce polar-là, au-delà de ces deux grands maîtres que sont Chandler et Hamed? Est-ce que les James Cain, David Goodis, Jim Thompson forme aux États-Unis le même corpus admiré de tous qu'on a en France?
Alors, en fait, bizarrement, pas forcément, parce que je crois que c'est, malgré ces traductions tronquées ou inexactes, et pas toujours d'ailleurs, et tous les auteurs n'ont pas été traduits complètement, je crois néanmoins que la reconnaissance littéraire est plutôt venue en France qu'aux États-Unis, en fait. Et c'est probablement à partir des années 70-80 qu'aux États-Unis, grâce justement à l'exemple français et à la valorisation que... un éditeur important comme Gallimard avait pu apporter à des auteurs qui eux-mêmes étaient méprisés chez eux, étant prophète en son pays, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit clairement une entreprise critique rigoureuse commencer à se mettre en place avec des rééditions de tous ces auteurs, mais qui jusqu'aux années début des années 80 n'étaient absolument plus dans dans le commerce. Par exemple, Jim Thompson, quand il est mort, il n'y avait pas un seul de ses romans qui était accessible ou vendu. Pareil pour Goodis, c'est des gens qui n'avaient pas été, pour beaucoup d'entre eux, valorisés. Alors, Hammett et Chandler, oui, il y a quelques cas comme ça, James Cain aussi, Ross Macdonald aussi, enfin, quelques grands noms, mais surtout parce qu'ils avaient publié dans des éditions reliées chez des éditeurs importants. Tous les auteurs de paperbacks, par exemple, et les auteurs de pulp avaient tendance à être totalement négligés. Donc, c'est un peu quand même grâce à la série noire, même si on peut, à juste titre, taper beaucoup sur leur traduction, que ces auteurs ont pu être conservés, que leur mémoire a pu être préservée, qu'ensuite on a pu faire le travail ou commencer le travail de réédition.
Un travail qui est repris aujourd'hui donc par François Guérif et Oliver Gallmeister, nouvelle traduction et textes intégraux.
Voilà, et ça c'est très bien.
Nous vivons dans un drôle de monde, mon garçon. Une civilisation particulière. Les policiers y sont les criminels, et les criminels y font le travail de la police. Les politiciens sont des prédicateurs, et les prédicateurs des politiciens. Les percepteurs ramassent les impôts pour eux-mêmes, les méchants veulent qu'on ait plus de fric, et les gentils se battent pour nous empêcher d'en avoir. Ça ne serait pas bon pour nous, tu comprends ? Si on avait tout ce qu'on peut manger, on chierait trop. Ça créerait de l'inflation dans l'industrie du papier toilette. Voilà ce que je comprends. Voilà à peu près le niveau de certains arguments que j'ai entendus. « Ouais, Johnny, dis-je, c'est un monde complètement tordu, complètement foutu. Et j'ai bien peur qu'il ne continue comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que personne, ou presque personne, n'y voit rien à redire. Il ne voit pas que les choses sont complètement tordues. Alors, il ne s'inquiète pas. »
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Toujours un texte traduit par Benoît Tadier dans son Histoire du polar américain qui vient de paraître aux éditions PUF. Alors c'est de qui là maintenant cette
Jim Thompson.
Méditation toute empreinte d'espérance et de fraîche confiance dans l'avenir, n'est-ce pas, Jim Thompson. Élise Lépine.
Donc oui, effectivement, comme le disait Hubert Prolongeau, Benoît Tadier, on découvre, on redécouvre beaucoup de plumes, beaucoup d'écrivains de polars américains dans votre livre. Et puis, on découvre aussi des plumes féminines. Vous avez reproduit un extrait de Margie Harris, dont la violence n'a rien à envier à celle des auteurs masculins, vous le faites remarquer. Et j'ai l'impression que finalement, ces femmes auteurs de polars étaient quand même assez nombreuses, qu'elles publiaient sous pseudo, mais qu'elles étaient vraiment là. Qui étaient-elles, ces plumes féminines ?
Eh bien, écoutez, comme vous le dites, oui, je crois que c'est quelque chose qui a été longtemps négligé. On a l'image d'un polar extrêmement macho et même assez misogyne. Hein. Il y a qu'à voir les titres de la série noire parfois.
Ou les couvertures des pulps.
Ou les couvertures des pulps. Mais les couvertures sont souvent mensongères, justement.
Sur fond criminel, il y a une machine à écrire. Voilà. Vous avez échappé au pire.
On a choisi une frustrante sobriété.
Et oui, hélas. Enfin bon, c'est aussi important, la machine à écrire. Et donc, sans vouloir dire que les femmes ont joué un rôle, disons, quantitativement très important, parce que malgré tout, c'était quand même avant tout un public masculin qui était celui des histoires de criminels violentes, disons, par rapport au roman Énigme, où là, les femmes avaient un rôle beaucoup plus important. Cependant, les femmes ont quand même, tout au long de cette histoire, joué un rôle, aussi bien comme éditrices de magazines. Hein, alors, là, dans ce cas-là, c'était des éditrices professionnelles qui pouvaient passer d'un magazine à un autre. Par exemple, Fanny Ellsworth, qui a succédé à Joseph Shaw dans le mythique Black Mask, était une femme qui venait, elle, de l'édition de magazines plutôt sentimentaux, mais qui a fait son boulot de manière formidable et qui a non seulement fait très bien son travail, mais renouvelé vraiment l'écurie d'auteurs du magazine et infléchi le cours du roman noir. C'est à ce moment-là qu'elle a donné sa chance à des auteurs qui ne pouvaient pas publié auparavant, comme le très grand Cornel Woolrich, qu'on connaît en France sous le nom de William Irish, et qui est d'ailleurs un des premiers auteurs à avoir employé des personnages féminins, peut-être en reconnaissance envers son éditrice, comme héroïne d'histoires criminelles, disons violentes, situées dans les grandes villes américaines. Donc voilà, et pour les autres, ce sont, je pense, des femmes écrivaines qui viennent souvent de milieux assez engagés. Si on pense à Vera Kaspari, l'auteur de Laura, par exemple, c'était une auteure de romans sociaux et qui était une personne engagée dans le mouvement communiste, qui avait donc trouvé, je pense, dans le roman noir, une façon aussi de faire vivre une veine politique à elle. Dans d'autres cas, ce pouvait être des auteurs de genre assez classique, comme Lee Brackett, qui est une très grande auteure de romans aussi bien de science-fiction.
Fondamentale.
L'Empire contre-attaque.
Voilà, le même voilà, scénariste.
Jusqu'à Star Wars, mais qui avait été aussi la co-scénariste du Grand Sommeil avec William Faulkner, ce qui n'est pas rien tiré
de. On l'appelle une carrière.
Et elle avait... la signe de l'éclectisme.
Ce qui est amusant, c'est qu'elle avait été appelée par Howard Hawks, le metteur en scène, pour travailler sur ce scénario, sur la foi du roman qu'il avait lu, son premier roman noir. Et. Qui s'appelle en anglais No Good for My Corpse, et qui, je pense, n'a jamais été publié en français. Voilà, un des oubliés dont on pourrait parler. Et il a été très surpris en découvrant qu'il s'agissait d'une femme, puisqu'elle a un prénom androgyne. Lee, ça peut être plutôt un prénom d'homme, et donc il pensait qu'il aurait affaire à un homme, et s'est retrouvé avec une femme face à lui. Donc les femmes ne sont pas très visibles, pour tout vous dire. Et pour tout vous dire également, je pense qu'il faudrait vraiment faire un bouquin sur le sujet, malheureusement.
Vous l'écrivez d'ailleurs. Voilà. Je suis tout à fait d'accord.
Donc je ne peux qu'aborder le thème. Ça ne peut pas faire vraiment. Je ne voulais pas non plus faire un chapitre un peu ghetto là-dessus. Parce qu'elles sont tout au long de l'histoire et ce n'est pas vraiment, il n'y a pas comme dans le polar afro-américain un moment où les choses basculent, donc c'était un peu difficile de les situer à part des hommes, si vous voulez, mais j'ai voulu vraiment...
Puis elles avaient des pseudonymes, j'ai l'impression que c'est compliqué de faire la part des choses.
Dans beaucoup de cas, oui, elles avaient des pseudonymes, mais pas toujours. Ça dépend un peu du statut. Dans les pulps, elles tendaient à avoir des pseudonymes quand elles publiaient dans chez des éditeurs plus chics, entre guillemets. Alors non, par exemple, on peut penser à la grande Dorothy B. Hughes, que vous connaissez, Il tourne les chevaux de bois, par exemple, un très grand roman, ou In a Lonely Place, dont j'oublie le titre en français, mais qui a été adapté avec Bogart au cinéma par Nicolas Ray, enfin de très grands livres qui, eux, étaient publiés sous son nom. Donc voilà, suivant un peu les niveaux où on se trouve sur le plan culturel, on a aussi des femmes qui sont plus visibles et ou moins. Et je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale, là, les choses, avec la fin des pulps notamment, et puis l'affirmation donc du marché du roman paperback, là, beaucoup de femmes passent à l'expression sous leur vrai nom et on sait à qui on a affaire.
Alors, on a évoqué effectivement là, les figures d'écrivaines dans cette histoire du polar américain. En ce qui concerne les personnages, ça c'est la pauvre femme, soit c'est la diablesse, un peu dans une tradition un peu fin de siècle, sainte ou putain. Là, c'est la diablesse, la femme fatale ou alors la malheureuse victime. Alors, vous montrez là toute une histoire, tout un magasin, je dirais, de figures narratives. Alors, certaines sont évidemment légendaires, comme le détective, bon, qui marque l'époque des pulps, l'époque Ahmed Chandler, bien évidemment, le gangster. William Riley Burnett, avec toute cette influence de l'actualité d'époque, Al Capone et autres, donc la naissance du gangster comme personnage littéraire, comme monsieur qui s'en est sorti tout seul et on voit comment. Il y a d'autres figures qui sont un petit peu des retours, retravaillés. L'Outlaw, qui est une figure de western, le hors-la-loi qui revient hanter le roman policier à sa manière, mais beaucoup plus fasciné par le personnage du maudit. Moi, c'est les deux personnages qui m'ont le plus intéressé, c'est le type qui a la poisse, qui a le guignol, qui est marqué au front par l'étoile du malheur. Le maudit, il a beau essayer, il n'y arrivera jamais. Et c'est le personnage type du roman noir et du film noir surtout. Il est pris dans un engrenage qui va l'emmener. Donc cette idée du maudit et du tueur fou. Alors ça, c'est à l'autre bout du spectre. Il y a le kill crazy, le personnage qui non seulement tue, mais éprouve une véritable frénésie quasi sexuelle dans le fait de tuer. C'est peut-être les deux figures les plus redoutables que vous mettez en scène, puisque votre livre est également un livre de metteur en scène.
Alors oui, en effet, il y a ces deux figures qui sont très intéressantes. La première est peut-être un peu antérieure à la deuxième. Les personnages de héros malchanceux, disons, qui tombent dans le crime souvent.
Hein. C'est Goodies.
Avant Goodies, il y a James Cain, hein, en particulier, le facteur sonne toujours deux fois, des choses comme ça, ou Assurance sur la mort, hein, donc de braves types qui, par amour ou par cupidité ou par envie de tout d'un coup jouer leur va-tout et parce qu'ils en ont marre de la vie médiocre qu'ils font, se lancent dans une aventure sans espoir, qui réussit presque et qui finit par se casser la figure. C'est à mon avis un personnage qui prend tout son sens dans les années 30 parce que je crois qu'il connote finalement bien le désespoir de la société américaine en proie à la crise à l'époque. Les grandes migrations, on sait qu'ils chopent souvent sur des résultats malheureux, hein, celles des gens de l'Oklahoma qui vont vers Hollywood et Los Angeles et qui se retrouvent.
Mais le phénomène migratoire est absolument essentiel.
Voilà,
d'ailleurs, vous nous apprenez quelque chose que savent sûrement les historiens américanistes, mais que j'ignorais ne l'étant pas, c'est que la plus grosse migration d'Africains-Américains, comme on dit, dans le politiquement correct, c'est après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est pendant surtout. Pendant, et après aussi, c'est là,
du sud vers le nord.
Du sud vers le nord et de la campagne vers la ville. C'est ce qui a vraiment déplacé le problème noir, justement, de la campagne vers la ville et du sud vers le nord aux États-Unis, ce qui a donné naissance aussi à des formes culturelles importantes comme le blues urbain, la Muddy Waters à Chicago ou autre. Donc tout ça, c'est des phénomènes extrêmement importants. Et je pense que justement l'intérêt de faire l'histoire du polar, c'est peut-être de retrouver aussi cette histoire-là dans les intrigues. C'est-à-dire que ce sont pas des personnages qui traversent forcément 80 ans d'un coup, mais ce sont des personnages qui prennent leur pertinence à des moments spécifiques de l'histoire américaine. Pour en revenir au deuxième type dont vous parlez, le tueur fou ou psychopathe, c'est un personnage qui apparaît vraiment après la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Peut-être l'écharpe de Robert Bloch est le premier roman raconté par un tueur psychopathe. L'autre grand roman avant Jim Thompson, c'est celui de Horace McCoy, Adieu la vie, adieu l'amour. Que vous connaissez aussi, qui est son grand roman de 1948. Je pense que ça renvoie à deux choses. D'une part, à cette pulsion homicide qui avait traversé une bonne partie de la société américaine du retour des champs de bataille.
C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, on revient avec des idées de justice, après la deuxième, avec des idées de meurtre.
On peut dire ça comme ça, je pense qu'on revient avec une égale violence dans les deux cas, mais après la première, on a quand même une phase d'expansion sociale avec la prohibition et la prospérité qui permet donc d'investir ses énergies dans toutes sortes d'activités, souvent illicites d'ailleurs, mais qui permettent de prospérer. Alors que quand on rentre de la deuxième, on se retrouve dans une société vraiment cadenassée idéologiquement, assez prospère, assez plan-plan, assez bourgeoise.
Qui oublie ses guerriers.
Qui oublie ses guerriers et qui veut même pas leur donner la parole surtout. Et je pense que c'est ça qui permet, cette parole, elle se retrouve là un peu transformé
dans
justement
le
dans le meurtre, puisque souvent ce sont des anciens soldats qui se retrouvent ensuite. Par exemple, le cas emblématique, c'est celui du détective de Mickey Spillane, Mike Hammer, ouais. J'aurai ta peau, 1947, qui est lui-même un ancien de la guerre du Pacifique et qui dit qu'il a découvert sa pulsion homicide dans le Pacifique contre les Japonais. Donc c'est un bon exemple. Et l'autre phénomène important, je pense, c'est un peu une mutation de la psychiatrie aussi, qui fait que dans les années 50, en même temps que l'Amérique découvre l'homosexualité, elle découvre aussi la psychopathie. Il y a des ouvrages sur la personnalité psychopathe qui sortent avec ce grand fantasme que derrière la façade de normalité du bon américain moyen se cache une bête fauve. C'est un peu là-dessus que joue Jim Thompson, évidemment, dans ses romans.
Bud prit une balle dans la jambe, une autre dans le côté. Deux tirs manqués, un dans l'épaule, un autre manqué. Perkins jeta le flingue, tira un couteau. Bud vit des bagues à des doigts. Deuce donna un coup de couteau. Bud sentit sa poitrine se déchirer, essaya de fermer les poings. Impossible. Deuce baissa le visage, ricanant. Bud lui balança son genou dans les couilles et lui arracha le nez d'un coup de dent. Perkins hurla. Bud planta ses dents dans son bras, se jeta au sol. Ils roulèrent pêle-mêle. Perkins faisait des bruits animaux. Bud secouait la tête, sentit le bras arraché à la jointure. Deuce lâcha le couteau, Bud le ramassa, aveuglé par les bagues qui tuaient des femmes. Il lâcha le couteau, battit Perkins à mort de ses deux mains blessées. James Ellroy.
Vous l'avez reconnu.
Voilà. Retraduit par Benoît Tadier. C'est qui est une nouveauté. Hubert Prolongeau.
Oui, justement, après Ellroy, c'est une des choses un peu frustrantes de votre livre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des structures très précises ou une espèce de marée tale qu'on n'a peut-être pas le recul encore pour analyser?
Alors oui, il y a sûrement énormément de choses. Hein. C'est un immense secteur de l'édition d'aujourd'hui. Il y a énormément d'auteurs. Je pense qu'il faudrait un peu de recul. Hein. Je crois d'abord que le travail d'historien nécessite de laisser les choses se décanter pour pouvoir voir ce qu'il y a. Je note que depuis Ellroy, bon, qui est encore en course, même s'il a probablement donné ou dit ce qu'il avait à dire, Je pense que depuis Leroy, il n'est pas sorti de figure aussi importante dans le champ du polar contemporain, américain en tout cas. Il y a d'excellents auteurs qui produisent un roman tous les ans, tous les deux ans, etc.
Oui. Mais en revanche, j'ai l'impression que cette tradition de l'auteur de polar qui a fait de la prison, qui a été magasinier, qui a été mécanicien, continue d'exister. Par exemple, Benjamin Whitmer chez Gallmeister, c'est un auteur qui quand on parle avec lui, quand on lit des choses, des interviews, il a fait tout un tas de métiers, puis il est devenu auteur de polar.
Oui, absolument.
Mais c'est très bien d'ailleurs, Benjamin Whitmer. Hein,
c'est très bien, Benjamin Whitmer.
Là-dessus, loin, c'est un désespoir qu'on peut effectivement avoir.
En tout cas, vous parliez
de
ces auteurs de pulp des années 20 qui existent toujours aujourd'hui.
Oui, mais je me demande si à partir de là, justement, on peut construire une vision collective. C'est un peu la question. Je pense que le rôle de l'auteur comme Gallmeister, c'est justement de faire émerger les affinités qu'il peut avoir avec d'autres écrivains et peut-être de nous faire sentir justement la présence d'un nouveau mouvement. Il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais c'est sûrement très très intéressant, effectivement.
Benoît Tadier, Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours. Le livre qu'il faut posséder sur le sujet, bon, désormais il est là, c'est aux éditions PUF. Ernest J. Garrison, en conclusion donc d'une playlist polar noir construite par Laurent Polleret pour cette émission polar de samedi dans Mauvais Genre. Alors, on connaît tous le film, ou ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, devraient le connaître. Donc, classique du film noir américain, Détour d'Edgar G. Ulmer. Le livre Martin Goldsmith est maintenant là, chez Rivage.
Et oui, c'est une découverte qu'on doit à Jeanne Guyon, femme de l'ombre un peu des éditions Rivage, qui est allée chercher ce livre.
Le moindre des choses pour une éditrice de polar.
Exactement. Qui date des années 30 et qui diffère un peu du film au sens où il y a un montage parallèle de l'histoire du héros et de celui de sa femme qu'il tente de rejoindre, et qui est un livre qui met en scène la figure archétypale dont vous parliez, du maudit. C'est un pauvre type, violoniste, talentueux, mais qui galère, qui part en voiture, en stop, il se fait ramasser, et le chauffeur qui le prend en stop meurt bêtement, sans que lui soit pour rien. Et là, s'offre à lui une double perspective, soit aller appeler la police et continuer sa vie en stop, soit prendre le portefeuille et l'identité du type. Et on sent dès le début du livre le poids du destin, c'est-à-dire qu'on sait que ce malheureux va faire le mauvais choix, et il le fait, il endosse l'identité de l'autre, et à partir de là, commencent des tas d'ennuis. C'est un livre qui raconte l'envers du rêve américain, c'est-à-dire cette espèce d'idée mythifiée par l'anecdote de Rockefeller qui ramasse une pomme dans la rue et construit sa fortune, qui fait que il faut oser, de toute façon ça arrive, c'est l'anti-Rin Brockovich, c'est un pauvre type, il veut saisir sa chance, il la saisit et il se plante totalement et il finit encore plus pauvre au début qu'il ne l'était à l'air. Donc c'est vraiment le rêve américain qui n'apporte pas ce qu'il a promis. C'est un livre écrit de manière un peu comme le film, très 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 sèche, qui va directement à l'essentiel, qui a ce montage en parallèle assez astucieux et qui a en plus une espèce de crudité qui est assez rare, je crois, même à l'époque. La sexualité y est décrite de façon quasi animale. L'héroïne, à un moment, qui est une serveuse qui voudrait devenir comédienne, envisage de se prostituer. On sent qu'elle prend les mecs un peu comme une friandise le soir, que pour se débarrasser d'un qui est un peu lourd, elle lui explique qu'il est un mauvais amant et le malheureux déprime totalement. Il y a aussi une espèce de crudité extrême et qui n'empêche pas l'affection de l'auteur pour ses héros. C'est pas un livre desséché malgré sa fluidité narrative. C'est un livre dans lequel il y a un vrai attachement, et puisque je ne recule jamais devant un jeu de mots vaseux, je dirais que c'est un peu Détour, c'est M le maudit, pour revenir à ce personnage archétypal qu'il illustre magnifiquement.
Benoît a dit alors Détour de Martin Goldsmith dans votre Constellation noire.
Très 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 haut. Je crois que c'est un roman totalement injustement méconnu et c'est une très bonne chose de l'avoir traduit. C'est un grand livre et d'ailleurs il y a beaucoup du livre dans le film, beaucoup plus que ce que disait Ulmer lui-même qui avait tapé sur Goldsmith et son scénario, alors qu'en réalité Goldsmith a écrit le scénario, contrairement à ce qu'Ulmer disait, et qu'il y a beaucoup du roman dans le film. Donc c'est vraiment une des voix essentielles qu'on peut situer un peu entre McCoy et James Cain à la fin des années 30.
Mais moins profuse puisqu'il n'a écrit que trois livres, je crois, trois romans.
Et son préfacier pour Rivage, William Boyle, dit que le roman de Goldsmith est un fil électrique sous tension qui vient fouetter une chaussée détrempée. C'est tout à fait vous, Élise Lépine.
C'est tout à fait moi.
Avec vous, c'est pas vraiment la même chose, c'est plus...
Elisabeth Brundage.
C'est pas un road movie, c'est plutôt tout est à l'intérieur d'une seule demeure.
Elisabeth Brundage, exactement, dans Les Angles Morts. En fait, elle fait cette chose très américaine, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, de cette figure de la maison hantée ou du lieu maudit. C'est-à-dire que là, ça se passe dans une maison qui est une ferme où s'installe un couple qui vient de New York, d'intellectuels. Elle est devenue femme au foyer, mais elle rénovait des œuvres d'art. Lui est professeur d'université. Il rachète cette petite ferme qui était habitée par des fermiers qui ont fait faillite et qui se sont suicidés, l'homme et la femme, dans le lit conjugal, en abandonnant leurs trois fils, qu'on va suivre tout au long du livre. La ferme est rachetée par ces intellectuels new-yorkais. L'homme est au courant de la mort du couple. La femme, elle, ne sait pas. Et Elisabeth Brundage va poser, comme sur un échiquier, en fait, les pièces de l'histoire au début du roman. Elle explique, voilà, ces deux morts. Et puis, elle va ensuite dérouler sur plusieurs centaines de pages le drame et les liens qui ont mené petit à petit à cette catastrophe et à la mort de la femme, puisque en fait l'épouse new-yorkaise va être retrouvée 8 mois après avoir emménagé dans la ferme avec une hache plantée en pleine tête et sa petite fille de 3 ans est restée avec le cadavre toute la journée. Donc il n'y a pas tellement de mystère sur l'identité de l'assassin, on comprend assez vite qu'il s'agit du mari et tout l'enjeu du livre va être de nous faire comprendre pourquoi et comment ce mari est devenu l'assassin qui va froidement planter une hache dans la tête de sa femme. Et on découvre une espèce de croque-mitaine domestique, un véritable pervers narcissique, extrêmement dangereux. Et on va être pris dans cette spirale de catastrophe, puisque cet homme va frapper sa femme, ça on le sait, mais on va découvrir tout un tas de méfaits qu'il aura commis pendant cette période assez courte de 8 mois. Et puis on va aussi comprendre ce qui s'est passé dans ce couple de fermiers. Et on va rentrer dans l'intimité de deux couples, le premier puis le deuxième couple dont chaque famille a terminé dans une tragédie atroce. Et moi, ce qui m'a intéressée chez Elisabeth Brundage, c'est qu'elle se repose sur plusieurs fondamentaux du roman américain, du roman de genre. Il y a du thriller. D'ailleurs, le livre a été adoubé par Stephen King. Je ne sais plus si c'était écrit sur le bandeau ou quelque part, il dit c'est formidable. Et effectivement, il y a cet héritage de la maison maudite. On pense à Shining et on pense à Cimetière, du lieu hanté. Et puis, on pense aussi à Truman Capote, par exemple. C'est un style assez froid et en même temps, il y a quand même une espèce de poésie et puis une réflexion autour de la tragédie close. Et puis il y a aussi, et ça m'a étonnée, j'ai trouvé ça délicieux en fait, il y a une dimension fantastique, il y a un fantôme, c'est-à-dire que la première morte revient tenir compagnie à la vivante future morte qui vit dans la maison, et il y a une espèce de lien qui se crée entre les deux femmes. Et là on a une référence au polar, pas au polar mais au roman un peu spirit américain, c'est-à-dire l'idée que l'esprit peut vivre dans le lieu et qu'on peut l'interroger, communiquer avec lui, et tout ça crée un grand roman américain. J'ai hâte de lire les prochaines traductions d'Elisabeth Brundage. C'était le premier roman traduit en français, j'espère qu'il y en aura d'autres.
Bah absolument. Shirley Jackson n'apparaît pas, il faut dire que c'est du fantastique. Hein,
oui, un petit peu, j'ai dû faire des choix cruels.
Mais on est à la croisée entre Shirley Jackson et le polar et le thriller. C'est très...
Elisabeth Brundage dans Les Angles Morts. Et on termine avec Christophe Beer. Écoutez bien, Benoît Tadier, c'est un livre pour vous.
Gangster, criminel, flic, victime, témoin, est l'album de famille d'une Amérique perdue en noir et blanc. Celle de l'escroquerie à la petite semaine, du viol sordide, du meurtre conjugal, de la scène de crime délétère. Fini les barons mythologiques de la haute pègre, place à la poisse désenchantée de David Goudis, aux ruelles dépressives de la Dark City des séries B d'après-guerre. Les protagonistes sont des psychopathes errants, des multirécidivistes goguenards, des mentes religieuses adultères, des junkies imprévisibles, des flics désabusés, des convoyeurs dévoyés, des témoins endeuillés, extirpés de l'oubli par des photographes de presse anonymes. Ceux-ci n'ont pas le génie de Wiggy, mais ils partagent le même sens de l'instantané. John T. Honeycutt, main sur le menton, regard clair, fixe le plafond ou le ciel. 32 ans, dit la légende, inculpé du meurtre de sa femme Florence, 37 ans, avec un couteau de boucher. Devant sa belle-mère, il lui a tranché la gorge et coupé les jambes et a sorti ses entrailles à main nue. Il a calmement raconté à la police qu'il préparait ce meurtre depuis leur séparation. Virginia Hillhauser, associée au caïd du banditisme, appelée à témoigner dans une affaire, s'engouffre dans une voiture de police, vison jeté sur les épaules, les traits tendus, rictus hargneux. Perdant son sang-froid, elle a hurlé aux journalistes « Je déteste les reporters et les photographes. J'espère que vous vous prendrez tous une bombe atomique sur la tête. » Certains se dérobent derrière un large chapeau feutre ou la carrure d'un flic débonnaire. Mais Harold A. Beach Jr., 23 ans, hilar, salue l'objectif de la main en chemise fantaisie, comme s'il se moquait perdument du verdict qui le condamne à la chaise électrique à Cleveland le 12 mars 1946. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de meurtre sur la personne d'une petite fille de 8 ans. La collection de clichés sélectionnés par Christophe Leflot pour les éditions Heredium procure le vertige pathétique des chroniques de la presse locale. Criminalité sans panache, folie ordinaire, préméditation infâme ou coup de sang fatal. Une banale humanité sans envergure, saisie sur le vif dans les gardes à vue, à la sortie des commissariats, dans les cellules ou à l'entrée des tribunaux. Mais ils ont l'expressivité des character actors de Siodmak, Ulmer ou Carlson. Dans le cadre parfait composé par les photojournalistes, ces acteurs du quotidien, pris au piège de leur destin, insufflent la même poignante photogénie qu'Elisha Cook Jr., Jack Elam ou Anne Savage, la Vera de Détour.
Merci Christophe Beer, Benoît Tadier.
Formidable, je vais me précipiter pour l'acheter.
Parce que c'est tout à fait l'univers dont vous parlez, c'est la version image de votre livre. Les photos ont joué beaucoup dans votre compréhension des textes.
Pas mal, oui. Et puis je me suis aussi beaucoup aidé de toute la littérature de faits divers criminels, l'équivalent du magazine Détective en France, qui est extrêmement importante aux États-Unis, où beaucoup d'auteurs comme Jim Thompson ont d'ailleurs écrit. On voit bien que le crime foisonne partout, dans toutes les classes américaines, dans toutes les régions, dans toutes les professions, que c'est vraiment un des grands marqueurs de la démocratie, si on veut, aux États-Unis.
Merci Benoît Tadier. Donc évidemment, toute... Bibliothèque Noire, digne de ce nom, se doit à partir d'aujourd'hui de posséder votre livre « Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours ». Au PUF, c'est le livre que l'on attendait. Merci de l'avoir écrit. Je signale également les ouvrages évoqués ce soir. Martin Goldsmith, Détour, c'est chez Rivage Noir. Elizabeth Brundage, Dans les angles morts, c'est chez Quai Voltaire. Je signale également de Mike Dash aux éditions Omblage, Le cirque de Satan, débauche, police et corruption à Manhattan. C'est le Manhattan de la belle époque, mais c'était déjà haut en couleur. Et puis aux éditions L'Iconoclaste, donc de Bernard Wallen, enfin traduction des livres de Bernard Wallen et Philippe Messing, sous l'action dans une collection dirigée par Bruno Fulini, Police de New York, 200 ans de crimes et de faits divers. Et puis bien évidemment, Primus Inter Pares, comme on dit à Los Angeles, la revue Temps Noir numéro 20, la série noire fait son cinéma avec notamment un article retentissant, mesdames, messieurs, sur Michel Audiard. Sont passés. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Toute l'équipe de. Prochain livre, Benoît Tadier, je ne vous ai pas demandé.
Je ne sais pas encore.
Pas encore, voilà, très bien. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pascal Besnard, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesne, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, François Angelier, Christophe Beer, vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur France Culture à 22h dans Mauvais Genre. Il sera la question de DVD. On vous parlera de Dario Argento, de Dan O'Bannon et de Mario Bava, Que demande le peuple. Et en tout cas, on reste à l'antenne de France Culture et on retrouve nos archives des années 67-68. C'était hier. Bonsoir à tous.
Thank you.